d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir et bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires. Nous recevons ce soir pour une table ronde radiophonique sur le thème « Les médias alternatifs peuvent-ils atteindre le grand public ?» Alain Duez de la revue Âge de Fer et David Éloi de la revue Altermonde, et puis ici présent Pierre et Gaël de Radio France, de Fréquence Paris Pluriel et du journal Le Piaf. Donc bonsoir et merci à nos invités, donc Alain Duez qui est fondateur de la revue Âge de Fer et qui nous parlera aussi d'un nouveau projet qui s'appelle Demain en main, on verra ça plutôt en fin d'émission. Et puis bonjour à David Éloi,
bonjour,
rédacteur en chef de la revue Altermonde, qui sont ce que l'on appelle souvent de la presse alternative. Alors ce mot est employé souvent en réaction à la notion de presse grand public, de médias grand public, mainstream. Mais alors finalement, on va se poser la question dans un premier temps, médias alternatifs, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Et alternatifs, à quoi? Alors, on va commencer par dire du mal des gens, c'est bien, on commence toujours comme ça, une bonne conversation. Par exemple, ces fameux grands médias, c'est une orientation de pensée, par exemple, qu'on peut juger monolithique. C'est une des premières reproches qu'on fait. On peut parler, par exemple, du fait que les grands médias sont propriétés de très peu de personnes. C'est ce que tu disais, Alain.
Oui. Oui, 95% des grands médias, en dehors de services publics, sont dans les mains de une grosse poignée de milliardaires, quoi.
Une grosse poignée de milliardaires qui imposent le rythme. Alors, on peut prendre des exemples bien célèbres, évidemment, avec le Figaro et un avionneur très célèbre qu'on peut citer, Serge Dassault, qui est capable d'aller lui-même écrire des éditos à la une du Figaro pour dire ce qu'il pense. Et son niveau de pensée, pour être monolithique, j'en sais rien, mais il est lourd, en tout cas. Hein, c'est des grosses pierres.
Ou Bolloré qui...
Bolloré avec Canal.
Avec Canal, dans, par exemple, son journal Le Direct Matin, encensait la recomposition de l'équipe du grand journal Le Canal+, bizarrement tenue par le même Bolloré.
Oui. C'est beau. Donc ce monolithisme, il est avéré. Hein. Personne, d'ailleurs, ne s'en étonne. On peut même imaginer que, par exemple, on peut parler d'exemples télévisuels aussi dans les médias, comme on vient de le dire, où l'appel à nouvelles chaînes pour la TNT laisse uniquement la place à des grands groupes industriels des médias qui sont capables d'avoir
avec la particularité française qui est quand même que ces grands groupes sont souvent des grands groupes qui dépendent de la commande publique. C'est quand même une particularité qu'on ne retrouve pas forcément aux États-Unis ou ailleurs où c'est aussi des grands capitaux qui détiennent les médias. En France, en plus, il y a un lien entre le politique et l'économique qui est assez malsain. Et j'ai envie de dire sur le monolithisme, il est à la fois chez les détenteurs des médias, mais il est aussi dans les discours qui sont véhiculés. C'est-à-dire que on l'a vu sur certains dossiers. Enfin, en ce moment, sur les réfugiés, on a à peu près le même discours partout. Et sur le traité constitutionnel européen en 2005, on a bien vu que de gauche comme de droite, enfin, pour mettre des couleurs aux médias dominants, finalement, le discours était exactement le même. Donc le monolithisme, il est aussi dans l'information qu'on donne. Et ce que je trouve d'autant plus préjudiciable sur ces médias dominants, c'est que un média, c'est là pour nourrir le débat public. Alors là, bonjour la nourriture qu'on nous sert. Hein.
Non, et ce monopolitisme, il est pas surprenant parce que si ces gens-là possèdent les médias, c'est pas pour le plaisir d'informer ni en des gens citoyens, c'est parce que c'est pour eux leur pouvoir, quoi. C'est grâce à ces médias qu'ils exercent la mainmise sur l'opinion. C'est grâce à ça qu'ils exercent leur domination. Et leur domination, elle a pour but de faire perdurer un système économique qui leur apporte beaucoup et qui, par ailleurs, détruit la planète et pose les problèmes qu'on connaît, quoi.
Mais, indépendamment de l'emprise capitaliste, quand on voit des journaux comme l'Ouest France, qui est un journal indépendant, qui appartient à une grande famille, on peut aussi invoquer je pense, une certaine paresse intellectuelle des journalistes qui, a priori, sont pas forcément sous la coupe permanente d'un milliardaire qui leur impose leur rédaction. mais qui simplement restent par urgence, par conformisme dans le, comme tu disais, le mainstream idéologique libéral.
C'est aussi que les journalistes, ils sortent tous à peu près des mêmes écoles, qui les forment de la même façon, avec les mêmes lignes. Donc ça n'aide pas non plus. On a des écoles de journalisme en France qui sont pas assez aventureuses et qui laissent peu de place à la diversité, y compris dans les journalistes. On a des profils de journalistes, enfin... ils se ressemblent tous, quoi. Alors, on a un peu de diversité qui s'est ouverte pour refléter la société française, avec le grand exemple d'Harry Roselmack, mais enfin, c'est un peu ridicule. On a vraiment la même classe sociale qui se retrouve partout, et donc c'est normal que les mêmes gens disent la même chose partout, quel que soit le média. Enfin, en tout cas, c'est normal. Ça s'explique.
Alors, une des excuses souvent présentées par ces journalistes, qui sont parfois capables d'autocritique, il faut quand même pas croire.
Oui, bien sûr.
Entre autres, ils sont énormément critiqués par les sociologues qui analysent les textes. Et puis aussi, on peut parler de l'association militante Acrimed, Action Critique Média, qui est capable, avec une analyse très très fine, de fouiller texte à texte, autant presse que télévision, radio, et qui est capable de montrer ce qu'on vient de voir d'un point de vue preuve scientifique, sociologique, qu'il y a un monolithisme humain et une idéologie précise qui est transmise par ces médias. Mais l'excuse qui est donnée par ces journalistes, c'est souvent être pris dans l'urgence. Ils sont pris dans l'urgence, ils ont du mal à pouvoir sortir de ce carcan qui est de simplifier l'information, de la rendre intelligible à toute vitesse, donc de coller à ce que attendent ce qu'ils appellent systématiquement le grand public. Donc ils disent, pour coller au grand public, pour correspondre à ce qui est l'attente des gens, nous sommes obligés de poursuivre la même démarche.
Oui, enfin, il faudra qu'on m'explique comment on définit l'attente du grand public, parce que moi, je pense qu'il y a aussi eu des effets... enfin, il y a l'attente du grand public et l'attente des annonceurs, parce que quand même, la presse mainstream, elle fonctionne énormément à la publicité, et que, oui, il y a une volonté de simplifier et d'aller vite, mais je suis pas bien sûr... Enfin, il y a certainement des attentes de la part du public de bien comprendre les choses, mais bien comprendre les choses, ça veut pas dire faire de l'information rapide et indigeste, et soluble, enfin, je suis pas bien sûr de ça, moi.
Puis on peut pas tout dire à la télé, il y a trop de monde qui regarde, disait Coluche.
Alors, plaire à leur auditoire, plaire à leur annonceur, c'est quelque chose de très précis. Quand on voit dans des journaux, même qu'on appelle être sérieux, comme par exemple le groupe Le Monde, quand un annonceur est sur une page B et puis qu'en page A, il y a un article pour le critiquer, je sais pas, j'ai jamais vu en fait ce que je viens de décrire. On a toujours quand même un suivi systématique de pôle d'annonceur.
Non, c'est clair, l'argent vient de la pub, donc on va. Enfin, clair. Et c'est autant la direction du journal que le journaliste qui l'a intégré, souvent. Et c'est pas pour taper sur les confrères, mais on comprend l'intérêt bien compris du journal, donc on va dans le sens de ce qui peut être admissible. Donc oui, effectivement, il y a une prégnance de l'annonceur. On dit souvent, un journal, il est vendu deux fois. Il est vendu une fois à son lecteur, il est vendu une fois à son annonceur. Donc après, malheureusement, le lecteur, il n'a pas le même poids que l'annonceur.
Alors, on vient de casser du sucre sur les grands médias.
On a dit qu'on se faisait plaisir au début, pour
le début. À présent, on peut prendre le problème à l'envers et se dire, voilà, soyons un citoyen quelconque, ce fameux grand public. Et lui, il est face à ces médias et il reçoit ce flot d'informations. Donc finalement, en se mettant à la place que nous avons d'ailleurs, d'être ce citoyen dans la rue, quel est le ressenti, je ne sais pas comment on peut exprimer ça, c'est-à-dire qu'on est pris quand même dans une masse d'informations, on parlera tout à l'heure beaucoup d'informations internationales avec la revue Altermonde, ou justement d'avancer de nouvelles idées sur l'écologie, alors qu'aujourd'hui, par exemple, si on demandait aux gens... quelles sont les alternatives énergétiques, ils vont dire, non, on peut pas enlever le nucléaire. Ou alors, Israël a quand même raison de se défendre. C'est quand même deux idées qui sont transmises par cette presse. Donc, voilà, en termes de citoyens pris dans le flot d'informations, finalement, on peut comprendre le citoyen d'être enseveli.
Moi, je pense qu'effectivement, la pluralité n'est pas assurée. Hein. Il y a eu au mois de janvier avec ce drame de Charlie, sur la liberté de la presse. Pour moi, la liberté de la presse en France, elle n'est pas menacée. La preuve en est, c'est qu'on crée des organes de presse assez facilement avec des aides de l'État, même si c'est financièrement pas toujours facile. Mais par contre, la pluralité, elle est pas du tout assurée. Et pour effectivement la majorité de la population, pour éviter le terme grand public, il existe des médias alternatifs, effectivement, qui ont un autre discours, mais qui n'arrivent pas à dépasser un certain lectorat. Et un lectorat qui est effectivement souvent militant, souvent convaincu. Et là, pour moi, donc, on a fait un peu l'état des lieux en début d'émission, c'est intéressant, mais ce qu'on a dit là, on le lit, on le relit, on l'a entendu, on le réentend. Maintenant, la question est, que peut-on faire pour changer la situation? Pour moi, il y a vraiment un problème de difficulté de toucher le grand public. Non pas qu'il ne serait pas intéressé ni concerné, parce que tout le monde est concerné aujourd'hui par les problèmes, tout le monde est en questionnement, mais on ne sait pas faire.
Alors par contre, les détracteurs, et je les entends souvent dire ça, mais aujourd'hui avec Internet, il n'y a plus de problème. L'accès à l'information, il est pour chacun. Chacun peut aller cliquer pour trouver l'info. Il suffit, même, on est abondamment dans nos boîtes mail, on reçoit des mails de différentes sources, d'ailleurs on ne sait pas trop d'où ils viennent, c'est justement ça peut-être le problème, mais on reçoit une quantité d'informations massive.
Ce rapport justement du public à l'information aux médias, enfin il y a des études qui sont faites régulièrement et il y a le baromètre à la Croix qui sort tous les ans. Donc si on élimine celui de cette année qui est un peu particulier parce qu'il a été fait juste après les attentats contre Charlie, donc on est dans un contexte un peu particulier pour mesurer l'opinion, mais il mesure le degré de confiance de l'opinion publique française par rapport à ces médias et ça ne cesse de chuter. Alors évidemment ce que juge l'opinion publique, c'est les médias qu'elle connaît, donc les médias qu'on va dire grand public dominant mainstream. Et on voit bien qu'il y a une chute régulière de la confiance et ces sondages, ces enquêtes disent clairement que les Français, dans leur majorité, considèrent que ce que relatent les médias n'est pas la réalité. Et ça, c'est très problématique. C'est pas des ramassides gauchistes qui répètent ça à tire-larigot. C'est une étude faite par la Croix avec l'Institut, je sais plus, c'est Ipsos, je pense. Donc c'est un truc assez institué et classique qui témoigne de cette défiance. Et effectivement, donc ça dit quand même des choses du rapport de l'opinion. Quand bien même elle est informée par des médias mainstream, elle n'est pas complètement dupe de ce qui circule dans ces médias et sur le flot d'informations sur Internet. Juste pour dire, les gens ont une confiance relative dans ce qui circule sur Internet. Il y a des études qui le prouvent et qui montrent notamment, je sais plus quelle était l'enquête qui a été faite, mais qui montre que quand on veut s'informer sur Internet, la majorité des gens vont voir les sites de presse. Bon. Là, on boucle la boucle, mais.
Moi, je pense que on sous-estime effectivement le besoin d'information que tout le monde a quelque part. Hein. Moi, je dis par exemple quelqu'un qui est devant TF1 à 20h, parce que c'est le journal télévisé, il est en demande d'information. Maintenant, bon, qu'il soit naïf ou qu'il sache pas choisir ses sources, c'est une chose, mais il n'empêche qu'il veut être informé. Moi, si je suis là aujourd'hui alors que j'ai passé ma vie dans le bâtiment, c'est parce qu'à 20 ans, j'étais abonné au Canard Enchaîné, je ne sais plus par quel hasard, mon père lisait La Voix du Nord. Et donc j'avais sous les yeux la comparaison et je me disais, dans une démocratie, il faudrait que le Canard Enchaîné soit mis gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres. Et c'est une évidence que l'état des lieux qu'on a fait, il est dû essentiellement au fait qu'il y a difficulté d'accès à des sources d'informations indépendantes. Quand tu dis, on trouve tout sur Internet, bien entendu qu'on trouve tout, mais il faut être sensibilisé sur un sujet. Et puis y aller. Et ça, bah, c'est tout. C'est une réalité qu'il y a plein de gens qui le font pas parce que ils sont à côté, ils sont dans un autre monde, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Moi, je dis aujourd'hui, il y a tout un public qui est privé de sources d'informations alternatives indépendantes à sa portée. Voilà, il y a un problème de visibilité. Bolloré tire 1 million d'exemplaires, c'est son canard. Bon, s'il le mettait au kiosque, il resterait son... Bon, il les met dans le métro, là où les gens passent. En plus, il est gratuit, hein. Mais bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème aujourd'hui de rendre accessible ces informations qui échappent à trop de gens.
On peut quand même citer un exemple qui est fort dans l'histoire récente politique. C'est le traité constitutionnel européen en 2003, où la masse de ces médias nous amenait systématiquement qu'il fallait voter oui. Ce oui était quasi unique. Hein. On pouvait rarement trouver finalement une opposition là-dessus. Or, les gens sont informés autrement. Ils sont créés une opinion personnelle par ce qu'ils ont pu trouver. Alors, il y a évidemment tout le milieu militant qui était pour le non et qui leur a amené cette information. mais ils sont aussi allés la chercher. Ils ont beaucoup utilisé Internet qui était peut-être un peu plus propre qu'il n'est aujourd'hui, parce qu'il y avait peut-être un petit peu moins de monde pour justement brouiller ce média, hein, au sens pur du terme. Mais résultat, le nom a surpris cette classe dirigeante. Et c'est pas les médias. Les médias ont raté, les médias monolithiques ont raté leur cible.
Mais ils continuent. Quand ils ont parlé de Syriza il y a quelques mois au moment des élections pour dire mais c'était inadmissible, il faut pas que ça passe. Bon, mais laissons les Grecs faire ce qu'ils ont à faire et puis ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas.
Et donc on est dans une situation assez paradoxale où finalement tout le monde se défie des médias dominants, les gens n'y croient pas et pourtant continuent à y regarder et ne vont pas vers des médias alternatifs.
Bah, c'est justement la suite de notre débat, mais pour pouvoir conclure cette bonne partie, écoutons la conclusion de Trio, sortez-les.
Jeux les plus malsains,
oh oui, j'en veux,
allez, enfermez-les,
jusqu'à ce
qu'ils ne puissent plus respirer.
Sortez-les poubelles, sortez-les ordures télévisuelles, sortez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
Bonsoir et bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, qui est animée aujourd'hui par une équipe composée de militants d'Attaque et du journal Le Piaf. Et nous recevons ce soir Alain Duez du journal L'Âge de Fer, dont nous allons parler à l'instant, et et David Éloi de la revue Altermonde. Alors justement, on parlait à l'instant de la presse alternative et on va prendre ici une série d'exemples. Parce que cette presse alternative, alors c'est un nom qui a été donné tout simplement pour dire qu'elle est en opposition aux médias qu'on vient de critiquer, à ces médias grand public. Mais il y a plusieurs, cette presse alternative, elle est très vive, elle est très large. Elle couvre finalement peut-être même beaucoup plus d'idées et de diversité que cette presse grand public relativement monolithique. Hein. Au sein de cette presse alternative, on parle parfois d'une presse critique, d'une presse qui va porter la voix syndicale, la voix politique, pour amener des idées qui n'arrivent pas à passer dans les grands médias. Hein. Et puis, il y a aussi une autre presse, une presse qu'on appelle parfois la presse pas pareille, hein, qui est celle qui va amener des nouvelles idées complètement différentes, qui permettraient, pourquoi pas, de changer la société. Alors, sans vouloir faire de classement dans toute cette presse alternative qui vit très bien, qui s'entend très bien parce qu'elles ont toutes la même démarche et le même projet, relativement à gauche, relativement écologique, relativement alternatif au sens de critiquer la démocratie et les grands médias, on peut prendre peut-être des exemples concrets. Et justement, Alain Duez va nous parler de cette réussite qu'est L'Âge de Fer, vu qu'elle est tirée, je crois, à 30 000 exemplaires aujourd'hui.
Ouais, 25 000, je crois. Donc oui, moi j'ai donc créé le journal L'Âge de Fer il y a 10 ans. Pour faire justement un média grand public. Hein. Je suis habité par ce besoin d'apporter une réponse à la rareté, voire l'absence de médias adaptés au plus grand nombre. Alors donc, L'Âge de Fer, le but était de faire un journal grand public. On a réussi le lancement, puisqu'il est toujours là et il tire à 25 000 exemplaires, mais on a loupé le grand public. Il est resté chez les militants. Alors, donc il y a 4 ans, donc j'ai donné le titre aux salariés qui se sont mis en scope, qui continuent donc le chemin de L'Âge de Fer, qui a son lectorat, qui a son public, je veux dire, hein, et je remets pas en question l'intérêt du journal. Mais moi, je suis reparti donc sur un autre projet, qui est la prolongation du premier, qui le lancement d'un magazine qui s'appelle Demain en main.
Alors on en parlera peut-être un peu plus tard de Normand, mais là on était justement en train de voir quelles sont les réussites. Et la réussite de L'Âge de Fer, c'est quand même quelque chose qui s'est appuyé certes sur un milieu militant, qui s'adresse aux militants, mais qui est capable d'apporter une information qu'un citoyen qui aurait envie, donc il faut qu'il fasse sa démarche, donc pas le grand public peut-être, celui qui va dans les foires écolo, qui va aller sur certains stands, qui va s'abonner. On trouve pas L'Âge de Fer en kiosque, ou très rarement?
Non, il pourrait y être aujourd'hui, mais il n'y est pas. Parce que le titre est connu maintenant quand même, hein, mais disons que alors la réussite de L'Âge de Fer, je voudrais quand même rendre hommage aux citoyens qui ont aidé à son lancement, hein. On l'a lancé de façon coopérative, hein, des gens qui engageaient 12,5 € tous les mois pour diffuser 25 magazines, et sans eux L'Âge de Fer n'existerait pas, quoi, hein, voilà. Donc c'est un journal qui effectivement se situe dans la frange des médias alternatifs avec un ton positif. hein, sur les solutions. L'âge de fer, FAIRE, hein, bien entendu, on l'a pas précisé, mais c'est FAIRE, parce qu'effectivement, c'est dans le fer que les citoyens vont effectivement réussir à changer ce qu'il faut changer dans la société, quoi.
Et donc, là où je trouve que c'est un bon exemple pour cette presse alternative, c'est qu'elle est là aussi pour aller refléter ce qui se passe en France, hein, en l'occurrence, principalement pour l'âge de fer, mais des choses qui ne sont pas rapportées dans les grands médias, typiquement des actions citoyennes, des actions militantes écologiques, des comment vivre autrement, comment faire autrement. Et cette information, finalement, elle dérange un peu le grand public, parce qu'elle leur explique qu'on peut parfois se passer de télé, hein, ça c'est clair, ou en tout cas se passer d'électricité, même parfois, et que c'est possible.
Bien sûr. Alors, ben, les médias alternatifs, en général, remettent en question profondément le système, et le système dont l'objectif, effectivement, est de générer de la croissance économique pour continuer à enrichir les plus riches, et aujourd'hui, avec, effectivement, face à une impossibilité des limites de la planète, la création de plus en plus de pauvres, quoi. Hein, c'est clair qu'aujourd'hui, le gâteau, on sait que le gâteau, il grossira pas, au contraire. Et si les gourmands, ils veulent toujours prendre la même part, ça veut dire que les autres, ils n'auront plus de gâteau, quoi.
Alors, si quelqu'un est intéressé par l'âge de fer, bon, il peut aller sur le site, s'abonner. Il le reçoit en version papier chez lui. C'est un joli objet, hein, sur papier recyclé, avec une très belle ligne éditoriale. Et il sera peut-être surpris d'y découvrir une quantité d'infos qu'il n'a pas au quotidien.
Tout à fait.
Alors bon, ça c'est un exemple concret, une réussite sur une dizaine d'années. C'est pas tous les journaux ont pas cette longueur de vie, et encore, il n'y a pas de raison que l'âge de fer s'écroule demain, vu qu'il est porté par un lectorat. C'est peut-être d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut et tu lançais toi-même la critique à l'instant pour dire qu'il a raté son projet grand public, mais il a quand même atteint sa réussite par rapport au moins à un lectorat de 25 à 30 000 personnes. C'est pas rien pour la presse, hein. Faut pas imaginer que même les grands journaux ont un tirage gigantesque. J'ai pas en tête exactement les chiffres, mais
Libé, c'est 120 000, par exemple.
120 000, donc ouais. on a un facteur 4. Bon, d'accord, c'est un quotidien, hein, c'est pas la même chose, mais c'est qu'un facteur 4, c'est pas non plus des chiffres gigantesques. Alors, on a présent ici un autre exemple de réussite des journaux alternatifs dans un cadre tout à fait différent, hein, avec la revue Altermonde, qui elle parle aussi un peu d'écologie quand même, mais pas seulement, elle parle surtout de politique internationale.
Oui, Altermonde, c'est une revue qui a été créée il y a 10 ans aussi, à peu près à la même époque que l'âge de fer, on s'était rencontré avec Alain, et nous, le point de départ, c'était de dire le traitement qui est fait de l'actualité internationale dans les grands médias est insatisfaisant parce qu'il ne montre que certaines réalités, certains pays, et donne la parole toujours aux mêmes. Et on peut trouver, c'est toujours la même chose, hein, d'ailleurs, parce que on peut se dire que qui a parlé de la Centrafrique dans les médias français avant la crise en Centrafrique? Personne. Qui en parle après? Personne. Donc il y a des pays qui sont hors radar, il y a des problématiques qui sont hors radar, et on entend toujours les mêmes nous dire la même chose. Donc l'idée de ce média, c'était de proposer un autre regard sur le monde, avec une particularité qui était de partir du point de vue des sociétés civiles, c'est-à-dire des associations, des syndicats, des groupements d'habitants, des mouvements un peu partout dans le monde. Et notre contenu, notre production éditoriale, elle est le fruit du croisement entre des journalistes professionnels et des acteurs de la société civile qui, ensemble, produisent une information un petit peu différente. Et donc, est-ce qu'on est un média alternatif pour répondre à la question de départ? Oui, si on veut. Moi, j'aime pas trop me battre sur les mots. Mais par contre, je définis jamais Altermonde comme média alternatif. Non pas que je rejette le mot alternatif, c'est que j'ai juste envie de dire qu'on a un média et on fait notre boulot. Après, si on est obligé de dire alternatif pour se définir par rapport aux autres, pourquoi pas? Mais moi, spontanément, je l'utiliserai pas. On est un média, on fait un travail de journaliste. On a une responsabilité vis-à-vis d'un lectorat qui on donne de l'information, voilà, bon, c'est la même chose que les autres, sans pour autant, encore une fois, rejeter le terme alternatif. Et juste sur la question du grand public, bon, on va en débattre après, hein, mais c'est vrai qu'on s'est créé dans une sphère très proche des milieux associatifs militants. On est sur un champ qui est très complexe, parce qu'on parle de l'international, donc c'est pas forcément le champ le plus évident pour attirer le public. On le fait à la fois en décryptant l'actualité internationale et en montrant en fait les initiatives citoyennes un peu partout dans le monde. Et comme on était, après 8-9 ans d'existence, persuadé que ce qu'on faisait, ça pouvait intéresser un public plus large, on s'est transformé l'année dernière, on a fait un énorme travail, on a refondu notre revue, on a ouvert un site internet, on a mis cette revue en kiosque, on fait ce pari-là, pour l'instant on le fait encore. pour se dire, mais essayons d'aller au plus près du public, enfin de nous rapprocher du public et de pas rester là où on en était jusqu'à présent. C'est un pari en cours qui est porté par une coopérative particulière, une SIC dans laquelle on retrouve nos lecteurs, des journalistes, des organisations de la société civile. Parce que pour nous, on considère que l'information, c'est un bien commun et que les médias, c'est une responsabilité collective. Donc si on veut que les médias existent et soient le reflet de ce qu'on a envie qu'ils soient, eh ben, il faut se retrousser les manches et y aller, un peu comme Alain l'a fait en créant L'Âge de Fer et Demain.
Donc si aujourd'hui on veut trouver Altermonde, on le trouve en kiosque.
Oui. Hein,
et on le trouve aussi sur le site
net.
Web.
Ouais.
On peut s'abonner, bien sûr.
Vous êtes invité à vous abonner. Ah oui, ouais. On sera très contents.
Alors, il y a quand même un point commun, là, on vient de le voir tout de suite, c'est qu'il y a une grosse assise de ces journaux médias alternatifs, médias presse pas pareil, médias qui essayent d'apporter une information différente que les journaux, que la grande presse, c'est de s'appuyer sur une base militante, souvent, des associations, des gens qui ont des choses à faire savoir, et ces journaux sont un peu des plateformes, hein, des façons de transmettre l'information d'un point à un autre.
En fait, c'est assurer la pluralité. Ce qui manque, c'est la pluralité. Donc, effectivement, Altermonde apporte une information que l'on ne trouve pas dans les grands médias. Donc, il apporte sa pierre, la pluralité. Le problème, c'est la pluralité pour le plus grand nombre. Parce que nous, on a la pluralité. Moi, j'ai aucun problème d'accès à l'information diverse. Et il y a toute une frange de la population qui est dans ce cas-là. Mais il y a malheureusement la grande majorité qui n'est pas dans ce cas-là.
Alors, un autre point commun dans ces journaux, c'est qu'ils font un lectorat prêt à payer. Ouais. Hein, donc, c'est aussi un des points peut-être de blocage. On en parlera un peu plus tard. Hein, on va parler de quels sont ces moyens d'accès. Mais on est dans la liste d'exemples. Il y a un exemple qu'on connaît bien dans l'émission, vu qu'une partie d'entre nous, et moi d'ailleurs, en font partie, d'un petit journal. Petit, parce qu'il n'a pas du tout de tirage à ce genre de chiffres. On a d'ailleurs un tirage difficile à prendre. C'est le journal Le Piaf. Donc Gaël peut nous en parler un petit peu de ces 10 ans d'histoire du Piaf.
Oui, le Piaf est né en 2005, comme L'Âge de Fer et Altermonde, avec à peu près le même constat que Altermonde, à savoir qu'on a une information dans les médias dominants qui est uniforme, à la fois dans les sujets traités et dans les angles d'attaque. Et donc le Piaf est né d'un groupe d'une dizaine de personnes, principalement issues d'attaque, mais pas que d'attaque, suite à ce magnifique unanimisme autour du oui pour le traité constitutionnel européen. Et donc on a décidé de faire un journal qui nous ressemble un peu plus. Et donc on avait un double constat. D'une part, cette uniformité des médias dominants, et d'autre part, le fait que à côté de ça, il y a un tas d'informations alternatives qui circulent sur les réseaux militants, soit dans la presse militante papier web, soit sur des listes de diffusion. Mais cette information est généralement écrite dans un langage peu accessible au public non militant, soit parce qu'il y a des tics de langage militant qui font ressembler les textes à des tracts, soit parce que les textes sont trop longs ou écrits d'une manière peu accessible, avec un langage un peu compliqué. Et donc, on a essayé de faire un journal alternatif, mais plus grand public. Donc, ça signifie alternatif, pour nous, ça signifiait des infos alternatives, c'est-à-dire des infos sur des sujets qu'on ne trouve pas ailleurs, des angles d'attaque différents de ceux des médias dominants, et puis un langage qu'on essaye grand public, c'est-à-dire des phrases courtes dans les articles, éviter nos tics de langage militant. Et puis en plus de ça, pour toucher plus facilement un grand public, ce qu'on a essayé de faire, enfin ce qu'on a fait, c'est un journal à contenu gratuit. Donc, contenu gratuit, à la fois disponible librement sur le web et diffusé sur papier librement. Voilà. Et pour ce qui concerne l'organisation, donc nous c'est entièrement une équipe de bénévoles, donc sous la forme d'une association, avec un comité de rédaction assez réduit et puis quelques contributeurs extérieurs. Et un réseau de distributeurs qui n'est pas encore assez développé, mais disons l'idée c'est que chacun puisse imprimer le Piaf et le diffuser autour de lui autant qu'il veut.
Alors bon, cet exemple n'est pas une réussite, rien à voir avec l'âge de fer ou Altermonde dont on vient de parler, mais c'est un projet alternatif qui reflète finalement une certaine quantité d'informations. Alors l'idée d'utiliser Internet, c'est de pas forcément être local, non, c'est justement l'idée d'être diffusé le maximum à des listes mail. Alors la distribution papier peut se faire en différents lieux, parce que les gens impriment et puis diffusent autour d'eux. Alors, je redis encore une fois, c'est pas une réussite au sens de la quantité de papier imprimé ou de mails diffusés. Mais ce projet, finalement, on prend l'exemple du PIAF parce qu'on est autour de cette table, mais on pourrait en citer d'autres, de ces petits journaux militants nés localement. Ce qui est étrange, c'est que c'est peut-être le seul à notre connaissance qui a cette volonté grand public, qui colle à notre thème du jour, étant donné qu'il veut être gratuit, qu'il veut avoir des phrases simples et que son public, finalement, c'est certainement pas le militant. Parce que le militant, tout ce qu'il y a dans ce journal, il le connaît pratiquement. Il l'a même lu avant dans des vrais journaux, hein, avec des vrais journalistes, comme on peut trouver à Altermonde, par exemple. Voilà, mais tout ça, c'est pour donner quelques exemples. On va rebondir à la suite sur, justement, plus notre thème. Mais on peut faire une petite coupure.
Moitié Pinson, moitié Boto, tout dépend de l'heure et du jour. Des bourrages pour après, quand je n'aurai plus de succès, quand je deviendrai journaliste.
Bonsoir et bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires. Aujourd'hui, l'émission est animée par une équipe de militants d'Attaque et du journal Le Piaf. Et nous recevons Alain Duez du journal L'Âge de Fer et du projet Demain en Main et David Éloi de la revue Altermonde pour parler de la presse alternative. Alors on vient justement de donner des exemples concrets à partir de ces journaux, mais il y a d'autres journaux qu'on appelle alternatifs. Alors ce mot alternatif, on l'emploie pour cette émission, mais c'est vrai que ça désigne, comme on le disait, une grande diversité. Et prenons par exemple aussi un exemple qui est quand même assez marquant dans l'histoire de cette presse dite alternative, qui était le journal par exemple PLPL, Pour lire, pas lu, qui était basé, je crois, sur Marseille à l'origine, et qui a existé de 2000 à 2005, qui avait un lectorat important, qui est un journal très très critique politiquement, et puis qui n'arrivait pas à se développer, qui avait peut-être aussi un lectorat limité, puis qui s'est uni avec un autre journal local, celui-là, le Fakir d'Amiens, qui existe toujours, hein, vu qu'il est né en 99, puis qu'il est ressorti il y a quelques années. Enfin, il a donc une période un peu plus moins active, vu qu'ils sont réunis pour faire le Plan B. Plan B, c'était un très beau journal, très bel journal, qui a existé de 2006 à 2010 et qui avait atteint un certain lectorat. Mais un matin, faute de lecteurs payants, faute aussi de journalistes qui voulaient vivre de leur métier, mais qui se retrouvaient souvent bénévole, Plan B est globalement reparti aux oubliettes de l'histoire de la presse, ce qui était dommage. Le Fakir, que je viens de citer, qui est à Amiens mais qui a une diffusion nationale, arrive à 30 000 exemplaires en kiosque aujourd'hui, à un véritable lectorat. 30 000, c'est ce qui est marqué sur leur site. Je suis allé chercher cette information-là.
J'ai lu ce matin dans Fakir qu'ils avaient atteint 10 000 en kiosque. Attention,
10 000
maintenant,
en kiosque.
Non, mais après,
ouais.
Ils ont des abonnés aussi. Hein.
Ils ont peut-être des abonnés en plus. Oui, d'accord. Peut-être que j'exagère, ces 30 000 exemplaires distribués. Donc, c'est un journal qui contient, à l'image de Charlie Hebdo ou de Ciné Hebdo, beaucoup de dessins, hein, qui plaisent à ceux qui aiment ce genre d'humour, parfois un peu vache, un peu critique, en tout cas, enfin très critique en général, et puis des grands reportages là-dessus. Donc c'est une des réussites nationales, même si c'est un journal plutôt écrit localement avec une grande base de bénévoles. Donc c'est ce qui permet, je pense, son assise et sa durée.
Ça peut, ce que tu viens de dire, ça peut effectivement ramener un peu à la question qu'on pose au début sur la certaine différenciation de la presse alternative. Hein, je dirais que il y a la presse alternative donc qui propose effectivement les solutions de changement radical de la société, même si le journal n'est pas forcément radical dans son ton, mais qui effectivement ne croit plus à la possibilité de réformer un système. Voilà. Puis après, il y a ceux effectivement qui restent quand même dans le système en le critiquant. Et donc, Moi, je pense que si on veut toucher effectivement le plus grand nombre, il faut absolument que ces médias-là soient, bien entendu, non confessionnels, mais aussi non partisans. C'est-à-dire que c'est clair que la majorité des gens ne veulent pas qu'on les tire par la manche sur le plan électoral, machin et tout. Bon. Et c'est tout. Il faut aussi respecter ce que le public est susceptible de prendre ou ne pas prendre. Et je pense que, et ça c'est le cas de l'âge de fer, et ça sera le cas de demain en main, d'être absolument dans l'information, dans le factuel, mais surtout pas partisan.
Alors dans les journaux locaux, c'est vrai que certains sont souvent très politisés, au sens même de la classe politique. Ils vont critiquer tel homme politique et dire parfois du bien d'un autre. Hein. Moi, je peux citer par exemple en Auvergne la Gallipote, qui est tirée à 6000 exemplaires depuis 1979. Donc c'est quand même une durée pour un journal, même quel que soit le journal. 6000 exemplaires, ça veut dire pour les gens qui travaillent ou qui sont militants autour de la Gallipote, d'aller eux-mêmes amener le journal dans différents points de vente, qui sont pas forcément d'ailleurs toujours des librairies ou des points presse. Ça peut être aussi différentes boutiques de souvenirs, parfois on la trouve. Et ce mouvement militant-là, il est quasiment important, hein, il est même nécessaire, parce que dans des régions comme l'Auvergne, le journal local, pour citer la montagne, est hégémonique, encore bien plus hégémonique que ne peut l'être Le Monde ou Le Figaro ou Libé. Hein. Quand on dit le journal en Auvergne, c'est la montagne. Alors, la moindre opposition est salutaire. On parle aussi d'un autre journal à Marseille.
Oui, il y a un journal qui fait... Je ne connais pas la Gallipote, hein, donc, mais il y a le Ravi à Marseille, qui est un journal d'enquête et un journal satirique en même temps, qui existe depuis... Enfin, je ne sais plus combien d'années, mais c'est assez ancien. Ils font un travail que moi, je trouve démocratiquement salutaire. C'est-à-dire qu'ils font un peu du Mediapart local. C'est-à-dire qu'ils vont décider d'enquêter sur ce qui se passe dans la vie démocratique locale, que ce soit du côté des élus ou du côté des pouvoirs économiques, ce que tout média devrait faire. Alors, c'est un choix d'être sur le journalisme d'enquête et d'investigation, mais ils se sont pas fait que des amis. Après, c'est effectivement quand même difficile de vivre quand on est un journal sur des lignes comme celle-là, mais ils arrivent à faire un travail qui est assez remarquable et qui fait que ils ont un lectorat qui les soutient de manière assez importante, même si leur modèle économique reste précaire, mais comme celui de beaucoup de médias. Par contre, bon, les politiques et les économiques, ils les aiment pas trop. Ils préfèrent toute la galaxie des Nice Matin, Var Matin et je sais plus ce qu'il y a à Marseille, mais bon. Mais ils font effectivement un travail d'enquête, et sur la question du grand public, ce qui est intéressant avec ces médias locaux, c'est qu'ils font de la proximité. Donc ça veut dire qu'ils peuvent traiter des sujets que nous on traiterait au niveau à Altermonde, au niveau national, mais eux ils vont les traiter à partir de cas concrets locaux et parler de développement durable, de corruption, de que sais-je, ou de solutions d'initiatives locales, mais en étant justement juste à côté. Donc par rapport au public qui touche, c'est d'autant plus pertinent.
Il y a aussi un journal dans le sud-ouest, à Villeneuve-sur-Lot, qui s'appelle La Feuille, et qui était... Je parle au passé, j'ai pas de nouvelles fraîches, mais enfin, à l'époque où j'ai été les rencontrer, c'est un hebdomadaire qui tirait environ 3000 exemplaires et qui avait une santé financière remarquable, parce qu'il est hebdomadaire, justement, et il avait touché son lectorat, c'est un peu les Robin des Bois du coin, quoi. C'était pas tant politisé que dénonçant les mauvais coups des notaires, les mauvais coups des côté un peu comme ça, quoi. Et il tirait à l'époque à 3000 exemplaires par semaine.
Alors tant qu'on est sur la presse locale, il y a une autre presse locale bien connue, vous l'entendez en ce moment, c'est les radios locales, hein, née souvent du principe des radios libres, née souvent aussi d'une envie d'une équipe de vouloir faire entendre sur les ondes autre chose que les radios qui nous balancent toujours les mêmes musiques, toujours les mêmes infos. Et là vous êtes en train d'écouter Fréquence Paris Pluriel. Et Claude peut peut-être nous en dire quelques mots.
Oui, alors la différence entre les radios et le papier, c'est que les radios dites libres, enfin les radios alternatives, donc, on ne connaît pas le taux d'audience. Parce que pour avoir le taux d'audience, c'est-à-dire donc la quantité d'auditeurs qu'on est potentiellement qu'on amené à avoir, il faut payer. C'est les instituts de sondage qui font ça, et ça s'appelle Médiamétrie, et il faut payer pour savoir. Voilà. Alors, on a quand même une idée de l'importance que peuvent avoir toutes radios confondues. C'est-à-dire, il y a aussi les radios en province qui sont très locales, qui sont pas forcément des radios militantes. Mais lorsqu'il y a eu le grand chantier de la RNT, Pour l'instant, il est un petit peu calme, ce chantier. Lorsqu'il y a eu ce grand chantier, il y a eu une condition que demandait le syndicat des constructeurs d'appareils, c'est-à-dire donc ceux qui allaient faire les récepteurs pour vendre au public. Cette condition, c'était que le jour de l'ouverture, toutes les radios étaient en place, émettaient, donc dans le standard, y compris les radios associatives. Ils tenaient beaucoup à ce que les radios associatives soient dessus. Donc, on pense qu'eux, ils ont eu quand même quelques chiffres, et l'ensemble, ça ne veut pas dire que nous, FPP, on a une grosse audience, mais, on peut l'espérer en tout cas, mais le global sur la France de toutes les radios associatives est pris en compte très sérieusement par les constructeurs d'appareils.
Alors c'est une info que tous les médias n'ont pas d'ailleurs, hein, parce que savoir être acheté, c'est pas forcément être lu. Hein. Donc on peut espérer aussi que les auditeurs d'une alternative lisent de A à Z leur presse, alors que la presse grand public ou les radios grand public, on les branche dans un coin et puis on les écoute pas forcément. Donc, il y a aussi une certaine qualité d'écoute.
Oui, également, ça, évidemment. C'est...
Donc ces radios locales alternatives, comme toute cette presse alternative, a une réussite parfois diverse, mais elle touche un public. Certaines de ces presses qu'on place aussi dans le monde alternatif ont des belles réussites. On peut citer Basta, qui n'ont pas pu venir malheureusement nous rejoindre. On les avait reçus il y a quelques mois sur différents sujets. Un autre sujet, je veux dire. Et Basta, donc, est un projet que vous pouvez trouver sur le site bastamag.net, qui a aujourd'hui 30 000 inscrits sur le site, dont une bonne partie sont des abonnés payants. C'est un journal qui se veut être l'actualité des luttes militantes, hein, qui reflète un peu, peut-être beaucoup de ce qu'on vient de dire à l'instant, autant politique, alternatif, nouvelle internationale, par exemple, on les avait reçus sur le livre noir des banques. Ils avaient pris le temps d'analyser ce que ne font pas la presse, d'analyser précisément comment aujourd'hui les banques ont été largement financées par l'argent public. Voilà, donc ça c'est des réussites. On a cité tout à l'heure donc Altermonde, L'Âge de Fer. On pourra en citer quelques autres.
Il y a Reporter aussi dont il faut parler. C'est donc Hervé Kempf, Transfuge du Monde, qui a relancé un titre qu'il avait déjà utilisé par le passé et qui est quand même très original en ce sens qu'il est vraiment spécialisé écologie, hein, et il mène donc des enquêtes assez fouillées sur des sujets importants, et apparemment son site est bien fréquenté.
Alors on peut clore sur cette liste en rappelant quand même qu'il y a des journaux qui sont un peu différents dans le grand public. On a été méchant tout à l'heure. On peut citer évidemment Le Monde Diplomatique, qui n'est peut-être pas très accessible au grand public, mais qui amène une information qu'on ne trouve pas ailleurs. Le journal Politis, qui lui est un hebdomadaire, hein, qui apporte aussi une information militante très à gauche, tout à fait différente. Évidemment, Le Canard Enchaîné, hein, et puis L'Humanité, qui sont aussi des journaux parfois un peu à part parce qu'ils sont proches d'une information précise. Et puis on peut quand même conclure cette liste par Mediapart, hein, qui est une réussite. Depuis Cahuzac, grâce à Cahuzac, on va dire, Cahuzac a donné une assise nationale à un journal qui était a priori, on va dire, cantonné à quelques abonnés sur Internet et qui brutalement, grâce à une information pertinente, et puis ils ont tenu compte de vrai marée, bon, ils ont quand même des gens aussi très solides à Mediapart, hein, à l'intérieur, ont fait cette réussite. Donc oui, une alternative à la presse dominante est possible. On peut d'ailleurs même se dire qu'à chaque fois que les grands titres de presse sont morts, c'est qu'il a fallu des grands événements. Hein. Il a fallu 45, il a fallu 68 pour voir naître et renaître la presse, à moins d'espérer, ce qui peut être le cas ici, une nouvelle révolution, une vraie révolution celle-ci. On peut imaginer que, par contre, nos grands titres vont rester. D'où la question qui est quand même la table ronde d'aujourd'hui, c'est comment cette presse alternative peut s'adresser à un public, on ne peut pas parler de grand public, mais au moins à un public plus large. Et entre autres, quelles sont les solutions, quelles sont les possibilités pour que cette presse soit avec un lectorat élargi.
Alors, peut-être avant de rentrer sur la question sur le grand public qui est importante, hein, faut peut-être aussi rappeler que on a toujours un regard un peu, je dis pas que c'est vous, c'est le cas ici, hein, mais le condescendant sur cette presse dite alternative, qu'elle soit radio, télé, internet ou écrite. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'un jour on se penche sur l'addition des publics de cette presse, parce que comme l'a dit Alain tout à l'heure, elle est très diverse, cette presse, elle est plurielle. Et certes, il y a énormément de zones de chevauchement de public entre différents titres, mais il y a aussi des publics qui ne se chevauchent pas. Donc ça veut dire que si on agglomérait, si on faisait vraiment un calcul de la population irriguée, touchée par cette presse différente, on se rendrait compte qu'elle n'est pas marginale. Alors elle n'est pas majoritaire, ça on est bien d'accord, mais elle n'est pas marginale. Et je pense que c'est important de le rappeler, parce que sinon on a toujours l'impression que c'est les gentils énergumènes qui s'énervent dans leur coin. Non, ces gentils énergumènes, ils représentent collectivement, et le mot collectif est important, collectivement un public. Ce n'est pas tout le public, et effectivement l'enjeu maintenant il est de comment on dépasse ce premier cercle qui a été touché et qui est assez important pour toucher un public beaucoup plus large, qui est celui qui n'est pas irrigué par le débat actuellement.
Je dirais que l'effort qu'il faut faire aujourd'hui pour toucher le plus grand nombre, tout le monde y a intérêt. Tout le monde veut toucher le grand public, de toute manière. Il n'y a personne qui dit « je ne veux pas publier », mais il y a une impossibilité sur laquelle je reviendrai après. Et je pense que ça serait l'intérêt, effectivement, de tous les médias actuels dits alternatifs, de travailler sur ce sujet, parce que c'est assurer leur futur lectorat. C'est clair que de la même manière qu'à l'école, on enseigne en sixième avec un bouquin qui n'est pas le même que celui qu'on donne en troisième, il y a aussi une progressivité dans l'aptitude à accéder à ces choses-là. Hein? Donc, moi, je pense que si on veut que cette presse alternative grand public existe, il faut vraiment mener une réflexion, mettre en place les dispositions qui vont permettre d'y arriver. Sinon, ça va pas se faire tout seul. Et pour y avoir longtemps réfléchi et travaillé, puisque l'âge de fer, c'était déjà la volonté, aujourd'hui, j'en suis arrivé à une conclusion qui est extrêmement simple, c'est que ça n'est qu'un problème de visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas aller chercher au kiosque un journal dont ils n'éprouvent pas le besoin, bien entendu. Par contre, s'ils le trouvent sur leur chemin, chez le boulanger, à la mairie, au bar, une couverture qui leur parle, des titres qui leur parlent, à un prix raisonnable, on reviendra après sur Demain en main, puisque c'est le projet de Demain en main.
Mais on peut venir tout de suite à Demain en main. Voilà. Demain en main, c'est un nouveau projet qui se veut être justement
complètement dans ce sens-là. Voilà. Donc Demain en main, on en est donc à la phase de recrutement des coopérateurs, parce qu'effectivement, la presse alternative grand public ne peut pas exister sans un coup de main de la société civile, sans que les militants y donnent un coup de main. Parce que, justement, ce besoin de visibilité, je dirais, supplémentaire, elle peut pas exister, surtout aux quatre coins de la France. Hein. Bolloré et compagnie, ils mettent leur gratuit par palette dans le métro, mais ils sont pas au fin fond des campagnes, parce qu'ils ne peuvent pas être au fin fond des campagnes. Or, avec, effectivement, un titre payant, parce que la différence, c'est ça, c'est que les gratuits n'ont droit à aucune aide à la presse, alors que dès que c'est payant, même si le prix est petit, il y a les aides à la presse. C'est-à-dire que Demain en main sera diffusé au fin fond du Vercors de la même manière qu'en région parisienne, au même prix. Bon, donc Demain en main, l'objectif, effectivement, avec un tirage ambitieux, 300 000 exemplaires, de pouvoir le vendre 20 centimes sans pub. Quand on dit la presse est chère, c'est pas obligé. Mais, on n'a pas de baguette magique non plus, c'est parce que la diffusion va être prise en charge par les citoyens. Donc on est en phase de recrutement des coopérateurs et des coopératrices, autant de personnes qui, moyennant 6 euros par mois, vont prendre en charge 30 magazines, à charge pour eux de leur donner la visibilité. Et cette visibilité, on la propose à partir de présentoirs en carton munis d'une tirelire que les gens disposeront eux-mêmes, chez le boulanger, à l'épicerie, enfin des lieux où les gens vont régulièrement et où ils sont susceptibles, à un moment donné, de dire « Ah ben tiens, 20 centimes, je prends ». Et si on réussit à ça, et je vois pas pourquoi on réussirait pas, le pari est gagné. Et ça, ce sont autant de gens qui viendront des lecteurs après de l'âge de fer, qui viendront des lecteurs d'Altermonde, parce que dans cette revue, c'est le papier dont on dit oui, ça va disparaître, on est loin d'abord de ça. Et par ailleurs, c'est un média qui a un excellent rapport prix-quantité d'informations. C'est-à-dire que moi, je suis incapable de dire à mon voisin, tu vas voir tel site, à 30 de mes voisins. Parce que je peux mettre 30 magazines dans 30 boîtes aux lettres de mes voisins, je peux pas aller les voir les 30 en leur disant, va voir tel site. Là, dans le magazine que je vais leur mettre dans la boîte aux lettres, ils vont avoir 30 liens, aller plus loin, voilà. Et un jour, ils découvriront Altermonde, un jour, ils découvriront l'âge de fer, et ils iront plus loin parce que on aura amorcé la pompe. Donc, si vous voulez, c'est clair que, et pour avoir longtemps réfléchi à ça, je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui pour toucher le grand public que le coup de main citoyen.
Donc si on veut participer, le site c'est demainenmain.info et il y a moyen de devenir dès aujourd'hui contributeur sur ce projet.
Tout à fait. 6 euros par mois, 30 magazines à diffuser, à mettre en place dans des présentoirs préalablement disposés, c'est une heure par mois. Donc c'est que dalle en termes de c'est, on peut pas dire j'ai pas le temps, on peut pas dire j'ai pas les moyens, parce qu'on se rembourse la tirelire, les gens ils mettent leurs sous, donc voilà. Donc ça ne coûte qu'un peu de temps aux 10 000 personnes qui vont participer au lancement à 300 000 exemplaires, hein. Mmh. Vous divisez 3 000 par paquet de 30, ça fait 10 000 personnes. Et voilà, il faut gagner ce pari-là, et on existe enfin dans le champ médiatique grand public. Et pour moi, je dis derrière, ça va démystifier cette difficulté, parce qu'aujourd'hui, pour plein de gens, c'est pas possible, quoi. Bon, eh bien, une fois qu'on a réussi une fois, il y en a d'autres qui reprendront, et peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura véritablement une présence alternative grand public dans les médias.
Donc ça, c'est une proposition concrète, mais je crois, David, que tu avais une vision de cette mission grand public qui est aussi plutôt d'axer sur la diversité entre les titres.
Oui, c'est un peu tiré le fil de ce que disait aussi Alain tout à l'heure sur la question de la pluralité. On a une pluralité de médias en France qui est assez importante, qui touche des publics différents, parce qu'ils ont des centres d'intérêt différents, parce que chaque média a sa ligne. Et bon, si on regarde Altermonde, c'est simple pour le coup, c'est l'international. Bon, l'international, ça va intéresser une partie du public. On peut peut-être un public plus large, certainement un public, j'espère quand même, plus large que celui qu'on touche aujourd'hui, mais ça intéresse une partie du public. Il y a d'autres médias qui vont s'intéresser à d'autres problématiques, et je pense qu'il y a, pour toucher le grand public, il y a certainement à mener des collaborations, des coopérations, à réfléchir une stratégie commune pour que de nos faiblesses, on en fasse une force, parce qu'on a de la capacité à produire une information intéressante qui peut être, moyennant un petit travail pour certains, un peu plus intelligible et accessible au public, parce que parfois, c'est vrai que nous, on fait du traitement long. Bon, bah, c'est du traitement long, mais peut-être qu'en travaillant avec d'autres, on pourrait faire des traitements plus courts, ce qu'on fait aujourd'hui sur Internet. Donc, il y a des alliances à mener, un travail commun à mener, qui est pas simple, parce que, mon Dieu, que c'est individualiste, un journaliste et un média, c'est compliqué. Mais je pense que si on arrivait à créer des passerelles entre nos médias, on pourrait avoir une masse critique, parce que c'est ce que dit Alain, c'est la question de la masse critique. Lui, il la résout à travers son système de coopérateurs, mais c'est ça qu'il faut essayer d'atteindre, c'est de pouvoir faire levier, parce que nous tous, on n'a pas le capital qu'ont les Bolloré, les Lagardère et tout ça. Eux, ils ont qu'à mettre de l'argent sur la table et ils y vont. Facile. Nous, on n'a pas ce capital-là, on ne l'aura pas. Mais on a un capital social, il faut savoir le faire fructifier.
Bon, malheureusement, ce sujet est passionnant, mais on arrive à la fin de l'émission. Alors, on va remercier tous les participants, donc Alain Duez du projet De Main en Main et puis du journal L'Âge de Fer, David Éloi d'Altermonde, Gaël et puis moi-même de l'émission Mode d'emploi et du journal Le Piaf, et puis Claude à la technique qui nous a aussi parlé plus en détail de Fréquence Paris Pluriel. Et nous écoutons pour terminer une chanson qui s'appelle Hano de Palia Béa.
In the